Douane, le 10 octobre 1936. Cher Walter Affolter, avec votre lettre extrêmement intéressante, vous m'avez fait un énorme plaisir. Votre visite à la Frau Brunnenhaus fut pour moi un grand honneur. Je tiens à aborder quelques-unes des réflexions formulées dans votre lettre. Ceci notamment, car après avoir définitivement emménagé dans la maison de mes pères, je souhaite me pencher plus en avant sur la civilisation des palafites. Il est vrai qu'enfant déjà, je considérais les hommes de l'âge de la pierre comme mes ancêtres. Mon père était à chaque fois au meilleur de sa forme lorsqu'il pouvait montrer ses antiquités à ses hôtes. En tant que commerçant, il considérait aussi ces objets comme des marchandises. Et même il n'aurait pas dédaigné vendre l'ensemble de sa collection pour un bon prix. Il montra toutefois à la porte un certain monsieur Sarrazin de Bâle qui ne voulait que certaines pièces. Pour ma part, en revanche, je tiens beaucoup, tout à fait dans l'esprit du colonel Schwab, à ce que les trouvailles datant du néolithique restent dans la région. Pas uniquement parce qu'on les a trouvées ici, mais aussi car c'est ici qu'elles ont été fabriquées et utilisées jadis par des hommes. Il me semble que seule cette unité de lieu rende leur lecture possible. J'ai perçu dans vos récits que nous ressentons tous deux un sentiment de bonheur lorsqu'à la chasse aux trouvailles, nous tenons soudain entre les mains le témoin d'hommes ayant vécu il y a si longtemps. Des milliers d'années s'effacent alors pour laisser place à une concomitance d'hier et d'aujourd'hui. Cela me fascine d'autant plus lorsque je prends conscience que ce type de lien est aussi à la base de la théologie. Lorsque, dans une histoire biblique, nous sommes capables de reconnaître la portée parabolique des faits historiques et de leur transformation dans le temps, il s'agit d'une expérience spirituelle intense. Lorsque vous décrivez le système matriarcal qui caractérisait le mode de vie de la civilisation de Abaluké, il n'en va certes pour vous pas autrement. Mais je dois vous contredire sur un point. Dans la théologie chrétienne, il n'est jamais question d'une réduction à Dieu le Père, mais d'analyse fortement différenciée. Je suis tombé dernièrement sur un de mes travaux de diplôme, écrit en 1903, et j'ai constaté que j'analysais et interprétais déjà les miracles de l'Évangile selon Jean. J'y avais même démontré le lien entre le Père et la Mère. Il s'agissait pour moi d'une part de montrer que Jean ne se référait pas littéralement à la multiplication du pain et du vin, calculer la quantité de vin par hôte que cela aurait signifié, mais à la multiplication de la nourriture spirituelle en vertu de la foi en Dieu. Si l'on prend plus la présence de Marie en tant que co-organisatrice de la fête, on voit que Jean souhaite associer les principes de la mère et du père. Je cite à la lettre ce que j'ai écrit à leur jeune étudiant. Israël est, en tant que peuple de la promesse, la mère du Messie. Dieu est le Père du Christ, aussi bien qu'Israël est sa mère. En citant Barofen, vous avez raison de souligner qu'une hiérarchie du maternel et du paternel comme expression du matériel et du spirituel ne peut être admise. Je vous approuve sur ce point, mais j'aurais cependant aimé connaître la manière dont vous envisagez ce lien entre le maternel et le paternel chez les Abaloukiens. Un point de votre lettre ne m'a plus quitté depuis que je l'ai lu. Pourquoi les représentations figurées sont-elles absentes chez les lacustres, contrairement aux Abaloukiens et à d'autres anciennes civilisations? Ce fut pour moi un véritable régal lors de mon voyage en Palestine, il y a environ 10 ans, de tenir les divinités, parfois de format minuscule, entre mes mains. Vous mentionnez le dieu Baal, qui au cours du temps est passé d'un charmant jeune homme à un terrifiant démon. N'ayant moi non plus pas pu lui résister, j'ai ramené chez moi un petit relief de Baal ainsi que quelques autres objets. Comme je n'étais pas certain que cela soit légitime, je m'en suis par la suite débarrassé. Voilà pourquoi nous n'avons pas abordé ce thème lors de votre visite à Douane. Quel rôle Baal a-t-il joué dans la civilisation de Abaluké? Retour en arrière. Les représentations figuratives de la civilisation lacustre, les allégations sur les cultes, les divinités et autres sont imagination pure. Je n'aime pas les thèses tirées par les cheveux. Que ne doit-on parfois pas entendre? Non, j'en reste au fait. J'ai moi aussi voulu placer des dents de sanglier affûtées dans la catégorie des rasoirs éventuels. Nous en avons parlé. Grande est la tentation d'extrapoler l'hier de l'aujourd'hui. Et comme je peux le constater, vous le faites vous aussi volontiers. En ce qui concerne l'absence de représentation figurative, il est également remarquable qu'aucun squelette humain n'ait été découvert. Peut-être cela a-t-il un lien ? Le feu et l'importance du bois utilisé dans les constructions peuvent constituer ici une réponse partielle. Cependant, les objets modelés et sculptés dans l'argile et la pierre auraient survécu. Mais comme ils brillent par leur absence, nous devons nous en tenir à ce qui existe. Examinons les superbes pointes de flèches en silex qui sont souvent travaillées de manière plus raffinée que cela eût été nécessaire pour la chasse. Manifestement, la chasse signifiait plus qu'une activité quotidienne pour les lacustres, plus qu'un simple approvisionnement alimentaire. Vous parlez vous aussi avec enthousiasme de vos armes de chasse personnelles et il va de soi que je me rallie à vos propos. Cela signifie-t-il que nous sommes dans le même bateau en ce qui concerne les lacustres ? On dirait que ces pointes de flèche particulières, du reste aussi des poignards, n'ont jamais été utilisées. Le beau avait donc une certaine valeur. Voilà jusqu'où nous pouvons aller. Et s'il s'agit de symboles de chasse, appartenait-il aux hommes ? Cela opposerait les lacustres aux abaloukiens. Mais qui fabriquait ces pointes de flèche ? Dans ma famille, c'est sans doute la femme qui s'en chargerait, car mon épouse, Nina, est extrêmement douée. Avec quel sens des ornements, quelle délicieuse prédilection pour les visages. Elle a arrangé les artefacts lacustres et les a fixés sur la paroi arrière des vitrines. La propension à l'embellissement est chez nous une qualité intrinsèque. Prenons de la distance par rapport à ce grand nombre de grattoirs en silex. On les utilisait apparemment de nombreuses manières. Cailler les poissons, nettoyer les fourrures qui étaient par la suite utilisées pour les vêtements et les lits, etc. Le nombre de grattoirs découverts témoigne d'un grand soin, ce qui constituait vraisemblablement une valeur. C'est comme cela que nous nous rapprochons des lacustres et non pas par le biais de thèses sur les cultes, les rituels, les divinités et autres. Avez-vous quelques éléments concernant l'espérance de vie des abaloukiens ? On dit que les lacustres n'auraient pas dépassé l'âge de 30 ans. Il n'existe toutefois aucune preuve pour étayer cette affirmation. Il s'agit pourtant d'un raisonnement auquel nous sommes constamment forcés de nous rallier en ce qui concerne les anciennes civilisations. Dans tous les cas, nous serions tous deux déjà morts depuis bien longtemps. Ce qui m'interpelle aussi encore et toujours est la question de la langue. Nous aimerions que les lacustres aient parlé. De combien de mots disposait-il pour s'exprimer ? Nous n'en savons rien. Vous dites avoir trouvé une inscription. Il s'agit après tout déjà d'une preuve de l'existence d'une langue, mais vous n'êtes pas encore parvenu à la déchiffrer. Une sorte de pierre de Rosette, j'ose l'espérer pour vous. C'est formidable que l'on puisse aujourd'hui lire les hiéroglyphes des Égyptiens, alors qu'il n'y a aucune écriture connue chez les lacustres. Peut-être accordait-il une grande importance aux gestes. Après tout, le langage, l'action de nommer, est déjà un processus intellectuel. Vous mentionnez le colonel Schwab. Il s'agissait en effet d'une véritable institution dans la région, avec Müller à Nido, tout comme Keller à Zurich. Müller avait d'ailleurs des idées intéressantes pour un équipement de plongée destiné aux chercheurs de palafite. Un tel équipement n'a cependant été utilisé concrètement que quelques fois dans le lac de Neuchâtel, ou le lac Léman. Ici, au lac de Bienne, nous avons bénéficié depuis les années 1870 de l'heureuse circonstance de la correction des eaux du Jura qui a tiré les palafites de leur vie sous-marine et les a remis à la lumière du jour. Dommage que le colonel Schwab n'ait pas assisté à cela. Toujours est-il qu'ici, on n'a ni creusé, ni plongé, mais principalement ramassé les objets. Je possède encore deux longues pinces mécaniques ayant appartenu à mon père qui étaient utilisées depuis des embarcations à proximité de la rive. Mais pour le reste, la situation était bien sûr similaire à la vôtre. Schwab laissait le soin de chercher, tout comme vous employez les paysans pour les fouilles à Zena. Alors que, pour ma part, je préfère y aller moi-même, début mars, avant la fonte des glaces, c'est le meilleur moment. Certes, ma femme soupire parfois lorsque je reviens encore une fois à la maison, avec une caisse pleine de cailloux, tessons de terre cuite, artefacts en os, cornes et bois, silex, cristaux et autres. Mais elle m'aide ensuite, quand même avec passion, à les débarrasser d'une saleté millénaire et à les identifier comme témoins d'un peuple d'une lointaine époque. Il est temps de clore cette lettre. Je commence à philosopher. Dehors, le vignoble m'attend. D'ailleurs, j'ai baptisé mon vin Eau lacustre du lac de Bienne. Dans l'attente du plaisir d'un prochain échange, très stimulant vraiment, je vous prie de recevoir mes salutations respectueuses. Carl Hirlette.